Mais je suis tellement heureux de pouvoir encore parler de la part du Seigneur. J'aime beaucoup chanter pour Dieu. C'est vraiment ma vie. Je suis née pour ça. Mais comme quelqu'un aussi a dit dans la parole, on peut recevoir plusieurs choses à faire dans la maison de Dieu. Et donc, ne regardez pas ma voix ce matin parce que j'ai crié hier. Ouais. Ne regardez pas ma voix, mais regardez la personne à côté de vous. Regardez comment est-ce qu'elle est habillée, cette personne, aujourd'hui. Posez-lui la question, comment est-ce que tu t'es habillé ce matin? Pose la question, est-ce que tu as pris du temps pour t'habiller ce matin? Toi, par exemple, tu as pris du temps? Tu t'es regardé ce matin? Tu as vu combien de temps tu as pris pour t'habiller? Dis à la personne, encourage quelqu'un, tu es bien habillé ce matin. Tu es bien habillé, tu es bien comme tu es ce matin. La Bible nous dit de se vêtir. La Bible nous dit de se dépouiller. Se vêtir et se dépouiller. Je viens dans ma penderie, je viens dans mon armoire, je mets quelque chose sur moi, comment on dit ça en français? Après, je sais que je suis vêtu. Mais quand arrive le soir et que voilà, il va falloir faire autre chose, je me dépouille de mes habits. La Bible nous dit, revêtez-vous de Christ. La Bible nous dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. La Bible nous dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. Il y a quelque chose que Dieu nous dit de se revêtir. Hier matin, j'étais au lit et je voyais quelqu'un devant moi ouvrir l'armoire. Elle fait comme ça. Comme si elle n'a pas d'habit. Comme si elle n'a jamais eu d'habit de toute sa vie. Je ne sais pas si toutes les dames sont comme ça. Mais il y a un vrai... On se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi il y a autant de difficultés pour choisir des habits? Pourquoi c'est pas... C'est vrai que moi, bon, ben, j'y vais, je prends, et puis... Et c'est elle qui s'en occupe. C'est elle qui le fait. Elle repasse. Elle lave, elle repasse. Mais vous, si vos vêtements sont bien rangés, votre vêtement est dans votre armoire, les vêtements sont bien là. Mais vous ne pouvez pas juste venir et se tenir devant l'armoire et les vêtements viendront sur vous. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. La Bible nous dit de se revêtir. Comme dans la vie de tous les jours, spirituellement, nous devons aussi nous habiller. Nous vivons à la fin des temps. Toute chose aujourd'hui devient très, très, très difficile. Tout est difficile. Les relations sont difficiles, les gens deviennent difficiles, les choses deviennent difficiles, les circonstances, les maladies, il y a tellement de choses. Tout devient difficile. Mais Dieu ne nous laisse pas orphelins. Dieu ne nous laisse pas juste comme ça. Dieu nous dit, revêtez-vous pour que vous soyez équipés. La parole de Dieu est vraiment étonnante. C'est écrit comme ça dans Apocalypse 16. Voici, je viens comme un voleur. Il dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Il dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Dans les temps où nous vivons, vous avez meilleur temps d'être habillé. Si la parole de Dieu nous dit, heureux celui qui veille. En fait, il veut dire par là, heureux celui qui tient ferme, heureux celui qui prie, heureux celui qui vient dans la maison de Dieu, heureux celui qui cherche Dieu, qui se tient et qui garde sa maison. Heureux celui qui veille. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Vous pouvez garder votre maison seulement si vous veillez. Revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Dans Éphésiens 4, au verset 24, c'est écrit comme ça. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et une sainteté que produit la vérité. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Dépouillez-vous, dépouillez-vous, il y a des vêtements qui ne vont pas aux chrétiens. Il y a des choses, des vêtements de jeunes, il y a des vêtements des aînés, il y a des vêtements à la mode, il y a d'autres qui ne sont pas. Il y a des vêtements qui vont à quelqu'un, des couleurs qui vont à quelqu'un, d'autres ne vont pas à quelqu'un. Il y a des choses qui ne vont pas aux chrétiens. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas aux chrétiens. Vendredi passé, on avait notre fête d'usine. C'est la fête de Noël. Hein. C'est la fête de Noël, mais en fait, aujourd'hui, c'est devenu la fête de l'entreprise. Et c'est vendredi passé. Et moi, je suis allé pendant des années. Mais vendredi passé, je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé parce que je sais comment ça fait. Je sais comment ça fait, je sais comment ça débute, je sais qu'est-ce qui se passe pendant, je sais comment ça finit. Il y a des habits. Ce n'est pas que je n'aime pas les gens. Je vais aller avec eux, je parle avec eux. On vit 8 heures ensemble tous les jours. Et j'aime mes collègues. Mais il y a des choses qui ne conviennent pas à mettre sur moi. Je ne veux pas... Moi, je suis plutôt appelé à revêtir l'homme nouveau, créé selon la justice de Dieu, pour une sainteté que produit la vérité. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée, d'être l'égal de Dieu, mais s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Et la suite, ça fait ça. C'est un autre verset. C'est pourquoi renoncer. Partez de là, sortez de là, évitez ça, ne reste pas là, fermez les yeux, faites quelque chose pour ne pas être atteint. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns et les autres. Un jour, Jésus se tient devant un tombeau. 3 jours avant, ils étaient quelque part et ils sont revenus parce qu'ils ont reçu la nouvelle, Lazare est mort. Lazare est décédé. Et c'est mon verset préféré qui dit, il se tient devant le tombeau et il dit, Je prie à cause de ceux qui sont là. Je prie audiblement à cause de vous, à cause de l'église de réveil, à cause de ceux qui sont là. Je prie avec ma bouche. Mais je sais, Père, je sais que tu m'exauces toujours. C'est dans Jean 11, en fait, je le lis comme ça, c'est mieux. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » C'est ça ma phrase. « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jésus se met devant le tombeau, il commence à crier, « Lazare, sors !» Et la Bible dit, le mort sortit. le mort. Je ne sais pas, vous avez déjà vu, est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui est mort, qui est encore dans le tombeau, mais qui vient, tout est bandé, hein? Il y a toutes sortes, et vraiment autour de lui, son visage et tout. Il y a des choses, c'est pas réaliste pour nous. Il y a des choses qui dépassent un peu ce qu'on peut imaginer, parce que quand c'est écrit comme ça, on n'imagine pas comment est-ce que le mort est allé jusque devant la porte. Mais le mort est bien sorti. Et Jésus dit quelque chose. Il dit, déliez-le. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le, dépouillez-le et laissez-le aller. Détachez-le et laissez-le aller. Vous savez, dans notre vie, nous avons besoin. Nous avons besoin que quelqu'un vous dise, déliez-le. Dans notre famille, si dans votre famille, vous avez quelqu'un qui pense à vous, qui veille sur vous, qui tient à vous, qui vous dit quelque chose, vous avez de la chance. Vous avez de la chance si quelqu'un vous dit, dépouillez-le, enlevez cette chose et laissez-le aller. Nous avons besoin que toute bandelette de la mort qui environne notre vie soit enlevée. C'est pour ça que nous venons à l'église. C'est pour ça que nous faisons partie d'un groupe de louanges. C'est pour ça que nous faisons partie d'un groupe de maisons. Pour que quelqu'un puisse délier, pour que quelqu'un puisse détacher les choses qui sont attachées dans notre vie. Tout cet environnement de mort. Environnement de tombeau, mentalité de tombeau qui poursuit notre vie. Même si Dieu vous amène à la porte, la mentalité vient avec vous. Même si Dieu vous libère dans votre vie, vous êtes converti, la mentalité vous accompagne. Tout le monde, tout ce monde de tombeau vous environne quand vous êtes au travail, quand vous êtes dans votre maison, quand vous êtes partout, vous êtes jusqu'à ce que quelqu'un décide. Quelqu'un dit, déliez-le, dépouillez, enlevez toute mort concernant votre louange, enlevez toute la mort qui concerne votre prière, enlevez tout esprit de mort, de pauvreté qui vous environne. Je suis le plus petit de tous les plus petits, je suis le plus pauvre, je suis le plus atteint sur cette terre. Tout esprit qui vous empêche d'aller et faire la volonté de Dieu. Jésus dit, dépouillez-le et laissez-le aller. Et tu vas voir tout ce qu'il va faire. Quand quelqu'un est dépouillé de tout esprit de mort, tu vas voir ce qu'il va faire et accomplir dans sa vie. Quand quelqu'un est revêtu, quand quelqu'un est équipé, quand quelqu'un est envoyé, vous allez voir ce qu'il est capable de faire dans une vie. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe à la fin des temps de ne pas être équipés. Parce que la parole est libérée. Parce que la parole est donnée. Parce qu'il y a des enseignants partout, dans toutes les églises, surtout sur Internet. Il y a des enseignants partout. La parole est donnée. Si nous n'entendons pas, c'est parce que nous n'écoutons pas. C'est vraiment... Tout est préparé et Dieu ne nous laissera pas sans, il ne nous laissera pas orphelins. C'est ça qu'il dit. Il dit, revêtez-vous de l'armure. Tant que vous êtes revêtus de l'armure, vous n'êtes pas atteint par l'ennemi. Dépouillez-vous. Mettez l'armure sur vous. L'armure, c'est pour nous protéger. Et après, il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Les armes, c'est pour attaquer l'ennemi. Les armes, c'est pour se défendre. Les armes, c'est pour ne pas se laisser faire. C'est pour ça qu'il dit au tout début, veillez. Veillez, c'est savoir utiliser nos armes. Ne pas juste subir. Dire oui, parce que je suis chrétien. Non. Dire non, parce que je suis chrétien. Dire que les armes que Dieu m'a données sont là pour être utilisées. Il y a des vêtements spirituels qui doivent être mis sur nous, comme nous portons nos vêtements naturels. Mais les armes de Dieu aussi. Les armes de Dieu, nous devons tous les prendre. C'est écrit dans Éphésiens 6, au verset 11, comme ça. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Quand tout va bien, tout le monde est fort. Mais nous avons besoin de quelqu'un à côté de nous. Nous avons toujours besoin de quelqu'un, toujours. Quelqu'un qui pourrait vous habiller quand vous ne pourriez pas. Quelqu'un vous pourrait vous conseiller, mais cette couleur te va mieux que celle-là. Quelqu'un qui vous regardera devant la penderie et qui va applaudir. Tu auras ton tour pour te venger. Revêtez-vous de l'armure de Dieu. C'est la protection. C'est la protection pour nos vies. C'est ce qui garde nos vies en sécurité. Revêtez-vous. Une église qui est revêtue de Christ est gardée dans sa marche. Un groupe de louanges qui est revêtu de Christ est gardé dans tout ce qu'il fait. Qu'on soit gardé et armé. Une des histoires, c'est vraiment une des meilleures. Moi, je m'identifie beaucoup à ce jeune homme. Parce qu'il y a des similarités, surtout par rapport à la chanson et à la prophétie. Je parle du roi David. Je ne me prends pas pour un roi, croyez-moi, bien que je suis roi et sacrificateur, comme chacun d'entre vous. Mais je m'identifie beaucoup à tout ce qui est arrivé dans sa vie. Il y a beaucoup de choses. Et bien sûr, je prends ce qui me convient, comme tout le monde. Mais dans 1 Samuel 17, il y a une histoire. Ouais, je vais lire. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements sur David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtut d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'a pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas encore accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière. C'est quoi ça comme... gibecière de berger. Et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui portait son bouclier, marchait devant lui. Le Philistin regarda et il aperçut David. Il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et de belle figure. Je peux te demander de te lever ? Non, il est tellement beau. Allez, aide-moi un tout petit peu, aide-moi s'il te plaît. Aide-moi, vas-y, lève-moi. Waouh! Vous voulez avoir un peu une idée de comment il était, David? Hein? Regarde. Comme il est beau, regarde ça. Merci, Ruben, merci beaucoup. Merci, Ruben. Un jeune homme pur, beau. Blanc, tellement beau, que l'adversaire, quand il le voit, il le méprise. Mais il va faire quoi à ça? C'est lui qui va représenter Israël. C'est lui qui va se battre avec moi. Un géant qui a besoin encore que quelqu'un le protège devant lui pour que c'est lui qui porte son armure pour que lui puisse frapper comme il veut. Le Philistin le regarda lorsqu'il aperçut David. Il le méprisa en voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Si vous ne comprenez pas la prophétie, cette histoire est très très forte pour expliquer ce que c'est la prophétie. Regardez comment il fait David. David n'a pas d'épée. David n'a rien. Il n'a pas d'épée, il a juste une fronde. Et il lui dit, je te trancherai la tête. Il lui dit, je te trancherai la tête. Vous voyez, c'est une atmosphère de guerre. L'autre s'avance, il va vraiment tranquille. Et il l'insulte. En fait, ce qu'on ne comprend pas dans cette histoire, c'est que c'est d'abord une sorte de guerre de Dieu. Il le maudit au nom d'un autre Dieu. Et David, lui, il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Je viens contre toi au nom du Dieu d'Israël. Toi, tu viens contre moi parce que tu es grand, parce que tu es fort, parce que tu comptes sur Dieu, tu m'insultes par tes dieux, et tu utilises tous les moyens que ton Dieu a. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. David, lui, il se revêt d'abord de vêtements spirituels. Il se revêt du Dieu d'Israël. Saül a trouvé vraiment bon de lui donner son armure. Il lui donnait son armure. C'est noble comme geste. C'est quelque chose de très très bien de penser à la génération future. De penser que ça va être quelque chose de bien, que je donne quelque chose pour la génération future. Mais Dieu a prévu quelque chose pour chaque génération. Dieu est tellement spécifique. Quand il voit ta vie, il sait exactement ce que tu auras besoin quand tu devrais rencontrer ton géant. Dieu sait exactement ce que tu as besoin. Et David a essayé de marcher, il a essayé de bouger avec l'armure. Mais comme il ne pouvait pas bouger, il dit, ah non, ça ne va pas le faire. Je suis désolé, Saül, mais je vais l'enlever. Il a enlevé l'armure et il est allé chercher quelque chose qui lui correspond. Quelque chose qui correspond à son parcours de vie. Quelque chose qui correspond à qui il est. Ce David-là, je peux vous dire qu'il pouvait dégommer à une distance impossible. Parce qu'en fait, c'est vraiment impressionnant. Le géant approche, David se revêt spirituellement et il court. Il court. Et en même temps qu'il court, il fait tourner la fronde et il lâche son coup. Et c'est parti. Et d'un coup comme ça, c'est parti. Et celui qui tenait le bouclier même ne s'est pas battu. Je ne sais pas si vous imaginez. Le gars, il part en fuite. Et comme le Philistin est tombé, David vient et lui tranche la tête. Excusez-moi, c'est un peu rude. C'est vraiment un peu rude.
Parce que c'est comme ça que ça se passe.
C'est une histoire de guerre. C'est quelque chose qui est là. Il lui tranche la tête et il le prend. Et... le prédicateur que j'ai entendu parler de cette histoire qui m'a tellement parlé, il a dit, je ne sais pas combien de temps David a gardé la tête de Goliath dans sa maison. Il l'a mis devant sa télé au-dessus de... Nous avons besoin de témoignages. Nous avons besoin de trophées, de victoires. Mais nous avons besoin vraiment de témoignages. Ce qui témoigne de qui est votre Dieu. Ce qui témoigne de ce que le Seigneur a fait. Quand vous êtes revêtu, quand vous êtes préparé, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui est de votre génération, quelque chose que Dieu a mis en vous. Vous allez au combat et que vous gagnez, vous gardez le témoignage dans votre vie. Vous gardez ce que le Seigneur a fait. Moi, ma vie est remplie d'histoires. Si je commence à vous raconter, je ne peux pas m'arrêter. Tellement j'ai vu, oh, je ne vais pas dire tellement j'ai de tête de Goliath, non, ce n'est pas ça que je dis, mais tellement j'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur, j'ai vu ce que c'est. Un Dieu qui combat pour vous. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de la justice de Christ. Être conscient de la justice de Christ et ne pas être forcément, justement, centré sur le péché. Beaucoup de gens perdent leur force en ressassant le péché. Ce que j'ai fait. Vous savez que c'est l'ennemi qui vient, c'est l'ennemi qui nous dit, qui nous rappelle les choses fausses qu'on a fait. Mais la Bible dit, revêtez-vous de la justice de Christ. Ça veut dire en fait, c'est pas moi qui suis juste, c'est Christ qui est juste. Et moi, comme ma femme, je viens devant ma penderie et je me revais de Christ. Je me revais de Christ. Je suis à l'intérieur de Christ. Je suis entièrement couvert par Christ. Et je commence à serrer ma ceinture. Vous êtes heureux si quelqu'un vous aime et qui vous dit « serre ». Ta ceinture. Parce que si vous marchez et que votre ceinture lâche, vous pouvez imaginer ce qui se passe. Soyez conscient plus de ce que Christ a fait, de ce que Christ représente, de qui est Christ pour vous. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de Christ. Et cachez-vous en Christ. Prenez un accord avec votre esprit. Mettez-vous en accord avec l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi se revêtir de Christ? Ça, c'est une bonne chose à réfléchir. Comment on fait dans notre vie de tous les jours? Pour représenter Christ, pour être revêtu de Christ. Pour moi, se revêtir de Christ, c'est représenter Jésus. Représenter Jésus en étant revêtu de qui il est. Représenter Jésus partout où je serai, avant que la journée commence, avant que j'entre dans cette journée pour faire tout ce que je dois faire. Avant même que je parle à ma femme ou avant que je lui dise au revoir, avant tout ce qui va se passer, je dis dans mon esprit, aujourd'hui je veux représenter Christ. Aujourd'hui je veux représenter Christ. Vous savez, vous pouvez aller dans cette journée et il se passera quelque chose. il se passera forcément quelque chose qui va vous taper par derrière. Il se passera forcément quelque chose qui va vous déplaire dans ce que vous allez vivre. Il se passera quelque chose de l'ennemi qui sera sur votre chemin. Tout n'est pas comme ça, mais il y aura sûrement. Et si vous ne vous revêtez pas, si vous ne vous préparez pas, si vous n'êtes pas dans l'anticipation, si vous ne vous mettez pas en accord avec l'Esprit de Dieu avant d'affronter tout cela, vous devez vous battre et forcément vous serez atteint. Mais si avant d'y aller, vous vous mettez en accord avec l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, demandez à l'Esprit du Seigneur, la Bible est vraiment hyper fort, vous êtes un esprit avec le Seigneur, un seul esprit avec le Seigneur. C'est impressionnant. Moi, j'aime énormément cela parce que je sais que je suis faible. Je sais que je suis petit. Je sais que je suis sans puissance, que je ne peux rien faire. Mais si je me revêts de l'Esprit du Seigneur, la Bible dit, Gédéon était revêtu de l'Esprit du Seigneur. Si je me revêts de l'Esprit du Seigneur et que j'entre dans ma journée, peut-être que je serai surpris de tout ce que Dieu va faire. En tout cas, le Seigneur combattra avec moi parce que je me revêts de l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns et les autres. Le Seigneur nous donne sa parole. Il nous donne son esprit et il nous donne sa parole. La parole et la vérité. Quand la Bible parle de l'armure, quand la Bible parle, il cite en fait tout, il y a toute une liste de ce que c'est l'armure. Alors il est où? Dans Éphésiens. En tout cas, je sais qu'il parle de la ceinture, il parle du casque du salut, il parle de la cuirasse de justice, il parle du zèle que produit la paix. Je commence par le casque. Le casque du salut. Vous savez, vous pouvez... Comment je vais dire ça? Vous pouvez avoir le casque sur vous et ne pas être conscient. En fait, quand le salut est dans notre vie, nous devenons quelqu'un de sauvé, quelqu'un que Christ a racheté. Et nous pouvons vivre avec notre ancienne nature, sans être conscient de ce que Jésus a fait pour nous et qui a changé notre nature. C'est pour ça que la Bible dit « Revêtez-vous de l'homme nouveau ». Et quand je me revêts de l'homme nouveau, je peux aussi vivre. Je ne suis pas toujours conscient de qui je suis en Christ comme nouvelle créature. Si je suis conscient de la puissance de Dieu que Dieu a mis en moi, à chaque fois que je prie, à chaque fois que je représente Christ, c'est vraiment quelque chose de très très fort dans une vie. Revêtir du casque du salut, c'est ramener dans ma conscience qui je suis en Christ. Qui je suis en Christ. Pourquoi Dieu m'a fait. C'est quoi ma mission? Ces choses qui nous ramènent, qui s'attachent en fait à notre royaume éternel, au royaume de Dieu. Qui je suis en Christ? Le pourquoi du salut? La vérité, la ceinture, j'en ai déjà parlé. Mais ce qui est vraiment important pour ça, c'est qu'il faut que vous sachiez où est-ce que vous devez serrer votre ceinture. On ne serre pas tous la ceinture au même endroit, bien que la ceinture est la ceinture. Il y a des gens, peut-être qu'ils devraient apprendre à parler moins. Il y a des gens, peut-être, qui doivent apprendre à penser autrement, à se renouveler dans son intelligence. Il y a des gens, peut-être, qui devraient apprendre à bouger leur vie, à rentrer, à servir. Mais il faut serrer votre ceinture. Il ne faut pas juste laisser comme ça. Peut-être que là, il y a un cran de plus à mettre. Et pour finir, ça parle de la paix. La paix. Votre paix, c'est votre position de puissance. C'est parce que vous êtes en paix que vous êtes efficace dans ce que vous allez faire. Moi, par exemple, si je ne suis pas en paix, je me perds tout le temps quand je conduis la louange. Si je ne suis pas en paix dans le combat spirituel, je m'en vais frapper un mur. C'est vraiment quelque chose de très difficile. La paix, c'est votre position de confiance, votre position de puissance. Quand vous perdez votre paix, vous n'arrivez plus à combattre. Vous n'arrivez plus à prier. Vous n'arrivez plus à prier ni à louer. La paix est très importante pour une communauté. Parce que si tout le monde est conscient qu'on doit garder la paix, la foi est maintenue. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'être humain. C'est un point de vue divin. Une sorte de fonctionnement qui vient d'en haut. À Madagascar, on mange énormément de piment. On ne mange pas piment comme on ne mange pas pimenté, on mange le piment. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas, en Inde, par exemple, tout ce qui se fait est rempli de piment. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, c'est tu fais ce que tu veux et il y a une sorte de piment. Ce piment-là, il est. On dit que 5 vaillants hommes n'arrivent pas à finir un piment. Alors, vous imaginez la puissance que ça fait. Et moi, j'ai grandi en mangeant du piment. Et j'ai tout le temps mangé du piment toute ma vie. Et à un moment donné, ça a eu de l'influence sur ma vie. Mon estomac a commencé à dire non. Mes intestins commençaient à faire la grève. Quelque chose s'est passé parce que le piment fait son effet dans le corps de l'homme. Dernièrement, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Mais à chaque fois que je viens à Madagascar, je prends le piment. Il faut que je t'en donne. Oui. À chaque fois que je viens à Madagascar, j'en prends. Et... ça fait tellement longtemps que j'en mange, que je n'ai pas mangé, que je me suis dit, oh, tant pis, quoi, je vais avoir mal, c'est pas grave, je vais manger, c'est vraiment quelque chose. Non, mais moi, ça fait quand même longtemps que j'ai renoncé à tout ça. Et j'ai vraiment renoncé. Mais j'ai quand même acheté. Et donc, j'ai toujours dans mon frigo. Et j'ai mangé du piment. Et j'ai mangé du piment. Et quand... J'en ai tellement mangé que je n'ai pas pu dormir. Tellement j'avais mal. Et ça a brûlé dans mes intestins. Et je me suis levé. Ouais, je sais, c'est moi qui ai mangé le piment, mais voilà. Voyez-vous, je ne pouvais pas réveiller Flo en disant, prie pour moi, s'il te plaît, prie pour moi, parce que j'ai mal à mon intestin. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré quelqu'un comme ça dans l'église. Parce que je sais, c'est moi qui ai mangé le piment. Je sais que je ne devrais pas manger. Je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je vais quand même demander à ma femme, s'il te plaît, prie pour moi. nous perdons notre puissance en faisant des choses en n'étant pas conscient avec le casque. Nous perdons notre puissance en ne... Tu dois serrer là, là je dois serrer à l'endroit où je ne devrais pas manger. Nous perdons notre paix parce que là c'est pas parce que Flo ne veut pas prier pour moi, c'est moi qui agis en insensé. Et ça, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Priez en esprit, restez éveillé. Si vous restez éveillé et que vous gardez votre vêtement, vous ne marcherez pas nu, on ne verra pas votre honte. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce.